Mesdames et messieurs, bonjour. En cette fin d'après-midi de 14 juin, merci d'être venus nombreux pour le lancement d'une nouvelle revue. Le Centre Pompidou, la Bibliothèque publique d'information sont heureux de saluer ce baptême et souhaiter s'y associer en donnant l'occasion à ses fondateurs de s'y exprimer avant ce que vous aurez tous remarqué comme étant un impromptu musical qui interviendra en deuxième partie de cette manifestation. Et sans tarder, je laisse la parole à Isabelle Bastien-Duplex, chargée de mission au sein du service d'animation de la Bibliothèque publique d'information, qui est l'âme et l'organisatrice de cette fin d'après-midi, de cette manifestation. Merci.
Merci. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir la revue Poly parce que, en fait, ça s'est organisé dans le prolongement des Cultural Studies, qui était une journée d'études que nous avions organisée en mars dernier. Et la BPI est très attachée à l'analyse des pratiques culturelles sous toutes leurs formes. Donc on est très heureux d'accueillir ce lancement de la revue Poly pour ce beau projet. Je tiens à remercier très très chaleureusement l'équipe Poly qui a vraiment eu une bonne idée de nous proposer cette séance. Et je les félicite pour l'excellence de leur organisation. Je remercie également Laurent Salard et tous les musiciens qui vont jouer pour nous ce soir. Et toutes les équipes de la BPI aussi qui ont permis que cette manifestation puisse se tenir, en particulier les techniciens et nos régisseurs, donc Jean-Marc Lanoé et Adrien Pasternak. Merci. Je laisse Maxime Servul et Sébastien Rodriguez Martinez Barra nous présenter le projet de la revue et le programme de la soirée. Merci.
Bonsoir. Merci effectivement d'être venus aussi nombreux pour cette séance Britney Remix. On est très contents d'être là. Nous sommes très heureux d'être accueillis par la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou pour le lancement donc de la revue Poly. Et nous sommes également très contents de pouvoir présenter le premier numéro de Poly en avant-première, donc que vous avez pu découvrir aujourd'hui exceptionnellement à la librairie Flammarion, puisqu'elle sortira officiellement en librairie le 12 septembre.
Donc nous voudrions remercier les personnes qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Merci au Comptoir des Indépendants, notre diffuseur. Et évidemment, un immense merci à la BPI qui nous accueille, et particulièrement à Isabelle Bastien-Duplex, qui nous a fait confiance pour ce projet. La Poly, vous imaginez, c'est un travail d'équipe. Donc, nous avons travaillé avec Mathieu Chausseron, Aurélien Gillier, Sabine Noble, Julien Mustin et Nelly Kemener pour le comité de rédaction. L'événement d'aujourd'hui a été pensé en lien avec les questions soulevées par la revue, par le premier numéro, et notamment en lien avec le dossier « Repenser les industries culturelles » avec Britney Spears. Il exprime assez bien, je crois, l'esprit de la revue. Le projet Poly est parti d'une volonté assez simple. Nous avons souhaité développer une revue qui corresponde à nos pratiques culturelles. Nous faisons partie d'une génération qui a grandi avec un clavier d'ordinateur entre les mains, ou en tout cas qui passe plus de temps devant l'ordinateur que devant la télévision.
Effectivement, aujourd'hui, nous assistons à une véritable multiplication des écrans, des outils et des formes d'expérience visuelle. Logiquement, le projet s'est donc dirigé vers un questionnement à la fois sur la production, la diffusion et la réception des images, comprises au sens large. Le cinéma numérique, l'Internet mobile, le Web 2.0 ou le jeu vidéo sont par exemple autant de médias qui à la fois transforment les industries culturelles, mais qui transforment aussi le rapport que nous entretenons avec elles. Parallèlement à cette multiplication de nouveaux médias, nous assistons aussi à une véritable convergence des écrans. Des franchises ou des marques déposées, telles que par exemple Britney Spears, se décline sur toutes les plateformes. Britney occupe, et c'est assez étonnant, tous les pans de l'espace médiatique. Du cinéma aux jeux vidéo, de la parfumerie à la musique, de la presse écrite jusqu'au Centre Pompidou.
Et à cette convergence des médias s'ajoute une convergence des rôles culturels. Aujourd'hui, la limite entre spectateurs et producteurs s'estompe. Il n'est pas rare que les publics soient sollicités pour modifier, repenser des produits culturels en cours d'élaboration. Sans compter qu'avec les sites de partage vidéo, nous produisons tous quotidiennement de l'image et nous en diffusons tous quotidiennement. C'est ce qu'on appelle le tournant participatif. Mais cette culture de la participation généralisée n'est pas sans soulever d'importantes questions, notamment sur le travail créatif des utilisateurs, mis en ligne gratuitement sur les plateformes de partage et qui souvent servent les intérêts économiques de ces plateformes. Pensons notamment à MySpace ou YouTube.
Lors de la préparation de cet événement, nous avons été confrontés évidemment à toutes ces questions de droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Et nous avons pu voir à quel point la législation française est encore incapable de donner un statut juridique à ces produits culturels créatifs. Par exemple, les remixes et les covers mis en ligne sur Internet, souvent par les fans, sont aujourd'hui criminalisés. Et leurs auteurs sont fréquemment condamnés à verser des sommes sans aucune mesure avec les préjudices supposés. La loi française est complètement en décalage avec les modes de consommation culturelle d'aujourd'hui. Nous ne pouvons donc que nous réjouir du fait que le projet de loi Hadopi, portant sur la soi-disant défense du droit d'auteur des artistes, ait été censuré par le Conseil constitutionnel. Et nous sommes ravis de faire cet événement. Voilà. Et nous sommes ravis de faire cet événement moins d'une semaine après que le Conseil constitutionnel ait affirmé que l'accès à Internet constitue un droit fondamental des citoyens. Dans ce contexte qui ouvre sur un nouvel âge de la culture, Pauli tente de poser des mots sur nos pratiques culturelles quotidiennes.
Au-delà de ces interrogations sur les pratiques, Pauli vise à cerner l'empreinte des discours politiques et micropolitiques sur les écrans qui nous entourent, interrogeant aussi bien les tensions postcoloniales qui traversent les jeux vidéo que les nouveaux régimes de consommation des icônes pop. En nous interrogeant sur Britney Spears, nous avons voulu questionner la culture de la célébrité et savoir ce que cette culture nous dit des transformations de l'espace médiatique. Repenser les industries culturelles avec Britney Spears, c'est s'interroger sur les nouveaux modes de consommation de la musique à l'heure du web 2.0. On ne le sait pas assez, mais Britney Spears est l'occurrence la plus cherchée sur Internet depuis 10 ans, devant Sex et Obama. La reine de la pop est aussi la reine du web. Sa carrière s'est développée conjointement au nouveau circuit de l'information dont elle a su judicieusement user. Repenser les industries culturelles avec Britney, c'est ouvrir un chantier de réflexion sur l'économie actuelle de la culture populaire.
Nous avons choisi d'organiser cette séance en deux temps. Tout d'abord une conférence et puis un concert. L'idée était de mêler deux approches différentes autour de la question de la politique du remix et de la politique de la cover. Une approche théorique tout d'abord, avec la conférence de Laurent Salard, et une approche en prise avec nos modes de consommation culturelle, avec un concert de reprise de chansons de Britney. Nous avons donc demandé à des groupes que nous aimons de revisiter le répertoire de la chanteuse. Ils ont accepté l'exercice et nous en sommes très contents et nous les en remercions. Donc vous aurez la chance de voir ce soir, par ordre d'apparition, Comité Central et Bijoux, qui interpréteront Slave for You, Viande Pétrole, qui interprétera Gimme More, La Maman et la Putain, qui revisitera Womanizer, This is Pop, qui reprendra Toxic, et enfin L'Homme Puma, qui clôturera la séance avec Lace and Leather. Nous tenons aussi à remercier le groupe A Fight for Love, qui a composé pour Pauli la version de Womanizer, que vous avez entendue en ouverture et qui sera le fil rouge de la séance.
Mais tout d'abord, avant ce concert, Laurence Allard, maîtresse de conférence en sciences de la communication à l'Université de Lille 3, propose une intervention sur les multiples réappropriations de l'image de la popstar sous la forme de remix et de covers mises en ligne sur les sites de partage vidéo. Elle va nous parler des enjeux de cette nouvelle phase culturelle qui s'ouvre à nous, la remix culture. Merci.
Alors, bien, je suis moi aussi ravie d'assister à... Enfin, de participer, pardon. Ça, c'est pour la seconde partie. De participer à cette manifestation originale. Et donc, je rassure tout le monde. Donc, je ne vais pas chanter. Vous avez de la chance. Mais en revanche, donc, je vais vous parler de Britney Spears 2.0. C'est une petite joke, mais... Remix is not cover. On va un petit peu essayer de différencier les remix des covers pour ensuite mélanger le tout pendant le concert. Donc, je vais ici donner quelques éléments de contextualisation, justement, de ce qu'on va entendre en seconde partie. Des éléments de contextualisation un peu quantitatifs pour que vous preniez justement la mesure de ce qu'on appelle ce tournant participatif du web, d'Internet, et des éléments de contextualisation plus théoriques d'ordre sociologique, économique et aussi juridique, car comme l'a rappelé Maxime, c'est vrai que tout ce que l'on va voir comme remix, notamment, c'est d'une certaine façon, sont des objets culturels dont le statut juridique est en France encore incertain ou qui est certainement criminalisé la plupart du temps. Alors ici, je voudrais, à travers ce corpus de remix et de cover, ainsi qu'un corpus, je ne sais pas si j'aurai le temps de le montrer, mais un corpus de controverses vidéo où des usagers de YouTube se mobilise contre le fait que YouTube ait soit retiré leurs vidéos pour des questions de droit de copyright, soit ait coupé le son, par exemple. Et donc, il y a tout un ensemble de vidéos où des usagers de YouTube qui ont des comptes, protestent. Voilà. Et ils se répondent mutuellement. Et donc, il y a un effet de mobilisation. Donc, je montrerai quelques exemples aussi de ce corpus de controverses d'usagers qui se mobilisent contre YouTube. Alors, à travers ce corpus, on s'introduit au cœur des industries créatives. Les industries créatives, c'est justement la mutation qui est en cours et qui permet de recomposer le paysage des industries culturelles en y joignant le jeu vidéo, le design, la mode, et les grandes et petites sociétés de l'Internet. Et donc, ces différents secteurs forment ce qu'on appelle aujourd'hui les industries créatives. Et donc, cette alliance entre différents secteurs est parfois thématisée comme une convergence culturelle, une convergence de différents secteurs créatifs. Et on va voir ici, au contraire, combien cette convergence se noue dans le conflit avec justement les criminalisations de certaines pratiques et remixes. Et donc, on va voir que ça n'a rien d'une convergence naturelle qui se fait tout doucement. Et donc, à travers ce corpus, ce qui est très, très intéressant, c'est d'observer justement comment la figure du public de la culture, ce public des industries culturelles, justement, est en train aussi de changer de statut. Et notamment, on va voir comment il fait sien les contenus des industries culturelles à travers différentes activités, qui est notamment de remixer, remonter, mais aussi simplement de voter, taguer, relinker sur son blog, etc. Et donc, on va voir combien l'industrie culturelle est plus forte que jamais, plus visible que jamais, qu'elle a une hyper-visibilité à travers toute cette activité, justement, des fans, des amateurs, qui s'expriment par ailleurs sur Internet. Alors, tous ces contenus à travers lesquels les publics, amateurs, etc., d'un artiste fait sien, justement, une chanson qu'il aime, un clip, etc., Tous ces contenus sont définis par ce qu'on appelle les user-generated content, c'est-à-dire les contenus générés par les utilisateurs. Et on s'aperçoit qu'une grande masse de ces user-generated content sont travaillés par cette poétique justement du copier-coller, justement du remontage, du remixage, etc. Et alors, donc finalement, cet ensemble de contenus génère ce qu'on appelle, certains auteurs américains les ont appelés des common peer baits, c'est-à-dire d'une production sociale dont le statut économique et juridique est justement encore à définir, encore incertain, et qui est en porte-à-faux justement avec les contenus des industries culturelles. Et on va voir aussi que sociologiquement, je ne développerai pas énormément, mais sociologiquement, il participe de ce qu'on appelle cet individualisme expressif où on va utiliser ces technologies d'expression de communication pour performer une identité que l'on a réfléchie, que l'on a mis en réflexivité. Voilà, donc c'est ce mouvement d'individualisation plus réflexive qui trouve là, à travers ces différents outils, une façon de se performer. Donc on va voir comment le public est un nouvel acteur et quel est son rôle dans ces industries créatives qui sont en cours de formation. Et on va voir combien justement les contenus qu'ils génèrent représentent des opportunités d'affaires, en fait, pour tout un ensemble de sociétés commerciales. Et donc, on va interroger, malgré tout, l'ambivalence de ce qu'on peut appeler cette démocratie sémiotique où on nous appelle à participer, on nous appelle à s'exprimer, et puis dont finalement les principaux acteurs, c'est-à-dire les publics auteurs, dont les principaux acteurs ne participent justement pas aux revenus. Et donc, à travers la présentation de l'écosystème Britney Spears 2.0, on va voir quel est le travail du public et à quel moment il se fait, d'une certaine façon, évacuer du circuit. Voilà. Donc, le programme. Maxime m'a promis de me débrancher aussi. C'était un peu trop long. Voilà. Alors, donc, pour commencer, je voudrais simplement vous donner quelques chiffres pour prendre la mesure, justement, de cette culture de la participation et du rôle joué par les publics dans les industries créatives en cours de formation. Alors, ce qu'on appelle, donc, les user-generated content. En France, par exemple, ça va être les Skyblogs, donc on ne parle pas souvent, mais en mars 2009, la dernière statistique en date est donc 23 millions de Skyblogs, 9 millions de comptes sur Facebook. Et sur Facebook, par exemple, c'est devenu le principal site de partage de photos. Hein, il y a 10 milliards de photos qui sont partagées par photo-tagging sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des auteurs sur Internet? Eh bien, il y a une enquête de l'ART Credoc qui avait essayé justement de quantifier juste ces pratiques expressives, ces user-generated content. Et donc, ils avaient estimé qu'il y avait 22% des internautes qui se disaient auteurs d'un blog, qui mettaient en ligne des textes, etc. Et que ça concernait donc un ado sur deux qui avait donc écrit sa première page Internet. Et seulement 6% des plus de 40 ans. Je voulais ici insister aussi sur moi, ce que j'appelle la matrice du peering, c'est-à-dire Napster à 10 ans, et c'est un peu par là que tout a commencé. Et donc, cette enquête aussi du Credoc estimait qu'il y avait en 2007-2008 11 millions de personnes qui avaient téléchargé de la musique, et chez les 12-24 ans, ça concernait plus de 60% d'entre eux. Alors, vous savez qu'il y a eu une redistribution ces dernières années entre streaming et téléchargement. Et on voit bien, donc, dans les rares enquêtes sur la question du streaming, c'est-à-dire la consommation de vidéos sur les sites eux-mêmes, avec la possibilité, on verra tout à l'heure, de les embarquer sur ses propres productions, mais sans les télécharger sur son ordinateur. Donc, une enquête qui a été réalisée en décembre 2008 avait montré que, donc, la répartition entre streaming et téléchargement s'établissait ainsi. 64% consommaient de la vidéo sur des sites de streaming et seulement 21% utiliser les réseaux peer-to-peer, et que ça concernait essentiellement les moins de 20 ans, puisque 76% des moins de 20 ans regardaient des vidéos en ligne. Il s'était aussi aperçu de quelque chose de très intéressant, c'est que plus on télécharge, plus on consomme, donc télécharger plus pour consommer plus, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui téléchargent, eh bien, vont plus au cinéma et achètent plus de DVD, et donc ce qui, évidemment, est une bonne démonstration de la propagande du ministère de la Culture qui nous indique tout le contraire. Alors, ce qui est le plus consommé en stream, sur les sites de stream, c'est-à-dire YouTube et Dailymotion, hein, ça va être les clips vidéo, les vidéos d'humour et les séries TV. Et c'est vrai que sur le peer-to-peer, je pense que la redistribution stream-peer-to-peer vient pas mal des amateurs de séries télé. Alors, YouTube, deux, trois indications statistiques hein, pour quantifier aussi, mesurer l'écosystème dans lequel ces remixes sont vus, sont uploadés, etc. Donc il y a des records tous les mois en fait hein, pour YouTube. Donc le dernier, c'est de mai 2005, du mois dernier, où 5 milliards de clips ont été visionnés. Et je crois que ce qui est tout à fait intéressant à noter, c'est ce chiffre, c'est-à-dire il y aurait donc, je l'avais noté, 1 milliard de clips par jour qui seraient visionnés sur YouTube ce mois dernier. Alors, ce qui est important, on va beaucoup en parler, c'est MySpace. MySpace, c'est le deuxième site pour ce qui concerne la vidéo. Hein, donc, il y a 5 millions de vidéos qui ont été vues en mai dernier. Et en France, il y a Dailymotion. Mais on oublie toujours MySpace, qui est quand même l'un des sites où l'on écoute le plus de musique et on le voit le plus de de vidéo. Alors maintenant, quelques données de contextualisation plus sociologique, plus théorique. Donc j'ai insisté tout à l'heure sur la matrice du pairing, c'est-à-dire le fait de pouvoir télécharger ces objets culturels que l'on ne faisait que consommer autrefois a évidemment été la grande transformation culturelle de ces 10 dernières années, et que par ce geste de téléchargement, cette appropriation matérielle, la culture n'est plus simplement un objet complètement sacralisé et non plus simplement un simple bien de consommation. Et donc s'est développé ce qu'on appelle cette culture de l'échange, du partage, du transfert, le fait de télécharger, de transférer sur son portable, de le partager avec ses amis par Bluetooth, et donc le circuit, l'économie culturelle et son circuit, le circuit des objets symboliques a complètement été modifié. Ça a eu aussi des conséquences justement sur la répartition, la distribution historique des rôles culturels issus de la modernité, où on séparait les auteurs, les publics et les diffuseurs, et on s'aperçoit donc depuis ces 10 dernières années qu'il y a ce phénomène de culture read-write, c'est-à-dire écriture-lecture, une réversibilité des rôles culturels. Et donc, on va voir à travers tout un ensemble de micro-activités comment, par exemple, les fans de Britney font aussi les critiques, les promoteurs, et donc assurent un rôle culturel qui n'est pas simplement d'écouter et simplement aimer comme c'était assigné autrefois. J'avais travaillé sur aussi les mangas fansubbers, qui jouent un rôle aussi de distributeur de séries manga, qui les traduisent et qui ont réinventé l'art du sous-titrage. Mais je crois qu'on passera à cette chose-là. Alors, pour résumer ce mouvement, c'est vrai qu'Henry Jenkins, qui est interviewé dans la revue Poly, a tout à fait bien synthétisé les choses quand il déclare que ces 10 dernières années, le web a fait passer les consommateurs qui se tenaient derrière leur chaîne, qui se tenaient devant les écrans de télévision. Ces 10 dernières années, le web donc a fait passer ses consommateurs sur le devant de la scène. Et il dit donc que la participation est considérée désormais comme l'un des modes opératoires normaux des médias, et on débat donc désormais des conditions dans lesquelles cette participation peut s'accomplir. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est donner un peu un statut à ces technologies d'expression, communication, à Internet, au mobile, qui sont toujours pluggés l'un à l'autre, qu'il faut penser de plus en plus ensemble. Et donc, on peut peut-être reprendre ici les hypothèses de Michel Foucault sur les technologies du soi, et considérer que ces technologies Internet, mobile, sont des technologies du soi, c'est-à-dire des procédures, comme nous l'expliquait Foucault dans son article « Technologie du soi », des procédures, comme il en existe sans doute dans toute civilisation, qui sont proposées ou prescrites aux individus pour fixer leur identité, la maintenir, la transformer en un certain nombre de fins. Alors, quand on s'intéresse justement à ces pratiques expressives, à l'usage de ces technologies pour s'exprimer, communiquer, on est assez, et notamment sur le terrain de ce qu'on appelle, avec bien sûr des pincettes, les natifs digitaux, comme le disait Sébastien, votre génération, moi je suis une vieille dame, donc cette génération est née devant plusieurs écrans et outils digitaux dans les mains. Donc voilà, cette génération qu'on appelle les natifs digitaux, née à partir de 1979, eh bien, quand on observe leurs pratiques, les skyblogs, etc., on est évidemment saisi par le fait que c'est la procédure du copier-coller, pas seulement dans les copies, mais dans les skyblogs, qui est le premier mode de confection, par exemple, ces premières pages sur Facebook, premier blog. C'est-à-dire qu'on va, prendre une photo que l'on a peut-être fait sur son mobile, la mettre sur son Skyblog, prendre la photo de son chien, que ça. Mais on va aussi, par exemple, ce qu'on appelle embedder, exporter un clip de Britney Spears, parce qu'on aime bien Britney Spears, sur Skyblog. Et donc, à travers ses goûts, on s'exprime, on dit qui l'on est, évidemment, à travers ce que que l'on aime. Et donc le copier-coller des contenus issus justement des médias et des industries culturelles via tout un ensemble de services qu'on appelle les codes embed, c'est-à-dire justement la possibilité d'exporter les contenus sur son propre site tout en faisant en sorte que ce contenu reste sur le serveur, par exemple, de YouTube, hein, eh bien, tous ces services de code embed permettent, en fait, d'embarquer la culture de masse, la culture des médias traditionnels, dans ses propres productions expressives. Et c'est ainsi, finalement, que la culture de masse, les industries culturelles sont plus visibles que jamais à travers cette façon d'être embarquées à travers ces différentes procédures, copier-coller, code d'embed, relinkage, etc., sont embarqués dans le web vernaculaire, c'est-à-dire donc les productions des users, des utilisateurs de YouTube, de Skyblog, etc. Et donc, on pourrait redéfinir en fait les user-generated content comme des contenus expressifs, hein, des contenus où finalement on va faire sien les photos d'un copain, le clip de Britney Spears, pour exprimer ses goûts et exprimer par là même qui l'on souhaite, montrer que l'on est, etc. Ce que je voulais aussi documenter avec vous, et ça va aussi dans le sens de ce qu'ont dit Maxime et Sébastien dans leur introduction, c'est-à-dire cette façon de criminaliser le téléchargement, de penser que sur Internet ne règnent que des méchants pirates sans goût, barbares, et des barbares culturels. On va essayer de documenter au contraire l'inverse, de montrer que la culture de masse et les anciennes industries culturelles nées au XIXe siècle sont plus présentes que jamais sur Internet et qu'elles ont tout à fait bien pris le tournant social d'Internet. Et donc l'écosystème Britney Spears 2.0 est un très très bon exemple de cette omniprésence des industries culturelles traditionnelles, historiques, sur Internet. Alors je vous parlais tout à l'heure justement de ces pratiques expressives où les ados donc vont dire, exprimer qui ils sont, ce qu'ils aiment, et la façon dont il y a différents services qui sont offerts par les sites pour justement embarquer eh bien les contenus des industries culturelles. Donc évidemment, il y a toutes les photos. Alors là, c'est par exemple tous les aménagements de pages de fond de MySpace qui sont possibles grâce à toute une offre de layout, pages de fond de Britney Spears. Là, ce sont aussi tous les embed codes dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont, donc je vais prendre ma souris, si je la retrouve, voilà. Voilà, embed code, c'est-à-dire que là, vous avez un code que vous copiez-collez sur votre page Facebook ou sur votre Skyblog et qui permettra d'écouter le MP3. Hein, d'accord, ça c'est. Il y a aussi évidemment, ça c'est sur Photo Bucket, donc des photos de Britney Spears. Là, c'est mon. Ma capture d'écran a un petit peu aminci Britney Spears. Je m'en rends compte. Mais bon, bref, le principe est celui-ci. Donc, vous avez des photos de Britney Spears sur Photo Bucket. Et donc, vous pouvez ainsi les embedder sur Facebook, sur MySpace, etc. Hein? Et donc, c'est à travers ces différentes procédures offertes par comme des services par ces sites, hein, que se trouve embarqué et que l'on fait sien l'industrie culturelle. Historique, Britney Spears, etc. Je voulais quand même vous montrer d'autres exemples de Britney Spears 2.0. Voilà. Alors, quand on regarde justement du côté de la marque Britney Spears TM, comment ça se passe? Donc, évidemment, sur le site officiel, vous avez la possibilité d'aller sur son MySpace, son YouTube, sur sa chaîne YouTube, son compte Facebook. Et donc ici, donc ça c'est le compte MySpace, avec ça c'est la chaîne YouTube, ça c'est le compte Facebook, et voilà. Et on verra justement quelle est la stratégie mise en place par Britney Spears à travers donc ces différents sites. Maintenant, on va aborder la partie la plus réjouissante en fait de notre conférence, qui est le corpus de Remix. Alors, j'avais fait une playlist pour préparer la revue, l'article de la revue et cette conférence. Donc voilà, j'ai fait une capture d'écran et pour vous donner un petit peu le nombre, par exemple, de vues. Hein, de ces remixes par exemple, hein. C'est pour vous voyez, bon, il y en a qui sont assez peu vus, mais il y en a qui sont énormément visionnés. Là, ce sont les remixes. Alors moi, je me suis focalisée en fait sur un classique, Leave Britney Alone de Chris Crocker. Hein, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est toujours voilà. Et puis sur des parodies de Humanizer. Alors, bon, Leave Britney Alone, pourquoi est-ce que c'est un classique? Parce que c'est finalement la vidéo sur YouTube qui a été l'une des vidéos sur YouTube qui est la plus remixée en vidéo. Donc ce qu'on appelle les commentaires vidéo. Hein, elle a été remixée à ce jour 2000 fois, mais ce n'est pas terminé. Elle a été énormément commentée et c'est la première vidéo la plus vue en divertissement. Donc ça fait partie des classiques de YouTube. Hein, voilà. Il faut connaître Leave Britney Alone. Alors, il faut savoir que Leave Britney Alone, je vais vous la montrer dans 5 secondes, est une réponse à un billet de blog qui avait été rédigé par Perez Hilton, un blogueur gay qu'on va retrouver tout à l'heure aussi dans le corpus des controverses. Et donc, ici, vous avez Chris Crocker qui est un performeur camp, qui donc nous explique pourquoi il faut laisser donc tranquille Britney Alone. Et donc ça, c'est une version sous-titrée. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je la mets donc en...
And how fucking dare anyone out there make fun of Britney after all she's been through?
Voilà. Bon, je vais montrer en cascade justement la réponse de Perez Hilton.
Britney... Leave me alone, Britney.
Alors ensuite, on peut se demander qu'est-ce qui a fait remixer autant, donc en vidéo 2000 fois, Chris Crocker demandant qu'on laisse Britney tranquille. Et alors il y a plusieurs types de réponses. Il m'a semblé que la plus décisive a été avancée justement par Henry Jenkins, qui est un spécialiste de fan culture, qui a longtemps travaillé justement sur ce qu'il appelle le fandom, c'est-à-dire les communautés interprétatives des fan cultures. Et il a donc mis en évidence, il y a dans plusieurs textes sur les cultures fans, les fan films, etc., que la fan culture ouvrait une culture alternative au sens où elle était définie par l'appropriation et la transformation des matériaux qui étaient donc empruntés à la culture de masse, les films, etc. Les films hollywoodiens, etc. Et donc, il a été, en s'intéressant évidemment au contenu des utilisateurs et à ce type de remix, il a été forcément amené à revisiter, réinterpréter sa théorie des fan cultures. Et donc, il a rédigé un article qui s'appelle, en anglais dans le texte, « Si ça buzz pas, c'est mort », et qui est une réflexion sur la notion de buzz. On parle beaucoup de buzz, de viralité. Il y a toute une problématique autour des mèmes, la mémétique. Et Henry Jenkins, donc dans cet article « Si ça buzz pas, c'est mort », que je vous recommande de lire, fait un sort, à mon avis définitif, à cette notion de buzz, en se demandant justement qu'est-ce qui fait remixer. Et pourquoi dit-il que cette notion de buzz est totalement contre-productive et totalement étrangère justement à ces pratiques, pour les analyser? C'est tout simplement parce que quand on parle de buzz, de viralité, etc., on dénie complètement justement les subjectivités qui sont censées s'exprimer à travers ces remixes, à travers ce copier-coller de contenu. Et donc, c'est une notion qui permet pas du tout d'analyser ces pratiques où les individus s'expriment à travers des contenus qu'ils vont retoucher à leur guise pour exprimer qui ils sont et qui ils aimeraient montrer qu'ils sont. Et donc, finalement, c'est une notion qui est totalement pas pertinente pour analyser ce type de pratique. Il a notamment retravaillé la question autour de Suzanne Boyle, là, dont la vidéo a été vue 100 millions de vues en un mois sur YouTube. Et il a aussi analysé qu'est-ce qui avait fait tant relinquer, pour le coup, Suzanne Boyle, qui avait fait tant buzzer Suzanne Boyle. Et il s'était aperçu qu'il y avait eu deux grands groupes. Il y avait toute la culture karaoké, qui est peut-être justement propre à la culture cover, à l'économie de la cover. Et puis, il y avait aussi tous les ensembles de chorales, enfin, tous les gens voilà, qui ont une pratique musicale, etc., qui avaient été très importants, justement, dans le relinkage et la dissémination de la vidéo de Suzanne Boyle, là, quand elle chante à Britain Got Talent, là. Et donc, elle avait montré qu'il y avait une dynamique, en fait, des communautés d'interprétation dans le fait de relayer des contenus. Donc il y a des individus qui choisissent, qui élisent un contenu, et le fait de le relayer, ça passe beaucoup par toute une dynamique communautaire. Et donc le buzz ne permet pas à la fois de comprendre cette dimension, cette inscription subjective, et cette dimension communautaire dans la dissémination des contenus, et le fait qu'ils sont remixés, comme ce qui est une façon hein, de s'approprier ces contenus, mais d'une façon plus active. Et donc, il a dégagé, en fait, quatre grands éléments d'explication du remix. L'humour, d'une part, la parodie, ce qu'il appelle aussi la nostalgie de la communauté, et le caractère inachevé, en fait, souvent, de ces contenus qui sont remixés. Plus le contenu a un caractère inachevé, plus il va être mixé. Et dans Chris Crocker, hein, on voit bien que cette dimension un peu inachevée est un peu explicative. C'est-à-dire que tout à chacun va finalement jouer à être Chris Crocker et va arranger, resonoriser, etc. cette vidéo telle un cadavreski, un petit côté de jeu de cadavreski. Évidemment, l'humour, la parodie. Hein, la parodie, c'est la transformation à but ludique, hein, simplement. Évidemment, on va jouer aussi. Ce sont souvent des jeunes gens hein, qui vont parodier, remixer, et donc pour simplement rigoler. Voilà, il ne faut pas non plus se cacher. Bon, alors, ce qui est assez visible dans ce corpus, c'est notamment comment. Justement, cette dynamique communautaire est tout à fait visible, puisque les fans de Star Wars, les fans de Michael Jackson, les fans de tel ou tel genre musical, eh bien, vont remixer Chris Crocker à leur façon, justement, suivant leur propre communauté d'interprétation. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. En signalant cependant que YouTube, c'est un médiascape, c'est-à-dire c'est pas du tout une communauté, justement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le carrefour de toutes sortes de communautés possibles. Alors, par exemple, les fans de Daft Punk qui vont remixer Leave Britney Alone. Alors, c'est ce qu'on appelle ici un mash-up, c'est-à-dire c'est les contenus dans leur intégralité qui sont superposés. Vous voyez, c'est pas simplement des échantillons qui sont remontés. J'ai fait moi-même des effets de cadavre ski. Bon. Donc il y aura tous les genres et sous-genres, techno-trans, techno. Voilà, tous les genres techno possibles, etc., qu'on va retrouver. Hein. Donc, si vous regardez les remixes de Chris Crocker, vous avez tous ces genres. Donc, on voit bien ici comment cette culture de la resignification, de l'ouverture des textes est à l'œuvre, cette réception productive hein, qui était typique des fan cultures qu'on retrouve justement dans ces remixes. Il y a celui-ci aussi, donc, qui est assez. Qui est un jeu donc de contraste entre image et son, un contrepoint audiovisuel.
How fucking dare anyone out there make.
Ensuite, alors ça c'est intéressant, c'est très interne, mais justement, ce sont les vidéos les plus populaires de YouTube, donc notamment, vous la connaissez tous, hein, le petit geek qui donc chante Numa Numa. Qui donc a été remixé avec Leave Britney Alone. Je crois que c'est juste seulement la bande son. Là.
Are you all ready for the remix?
Alors ensuite, il y a juste pour ce qui est côté clip, il y a évidemment tout un ensemble de parodies de clips de Britney Spears et les plus importants sont les clips autour de Humanizer. Donc je vous montre rapidement le clip d'origine tel qu'il a été parodié en français. Donc Vibromasseur. C'est aussi affiché comme parodie. Voilà. Ouh. Bon, juste parce que un autre remix alliant aussi avec une cover du propre. Je vous en montre juste des extraits.
You are so lazy. You're nothing without.
Voilà. Bon, ensuite il y a celui-ci, Energizer. Bon, il y en a, voilà, tout un ensemble assez conséquent. Alors tout ça est donc plutôt créatif, jouissif, réjouissant, mais on va conclure là sur l'ambivalence malgré tout de ce Web 2 justement dans lequel s'inscrivent ces pratiques. Alors justement, le Web 2 a été défini en reprenant le mot célèbre de Kodak, You make all the content, we keep all the revenue. Donc, et c'est ce qu'on appelle justement le crowdsourcing, c'est-à-dire en fait, les contenus sont générés par les utilisateurs, en effet, mais les seuls bénéficiaires, ce sont évidemment les sociétés commerciales qui permettent, tel YouTube, Google, de par exemple publier, de diffuser ces remixes. Alors le crowdsourcing, rapidement, avait été défini, qui est le modèle économique du Web 2, de ce Web participatif, a été défini par Jeff Ho en 2006, et c'est ce qu'on appelle l'alimentation par la foule. Et je cite souvent cet article parce que c'est un article qui est raciste, où il explique que finalement, autrefois, et on connaissait le travail mal payé, ça s'appelait l'outsourcing, donc on faisait travailler les Chinois, on délocalisait, mais que maintenant, le Web 2 a inventé le crowdsourcing qui permet de faire travailler gracieusement le travailleur expressif blanc, qui va, par exemple, remixer, publier, republier des vidéos, taguer, commenter, etc. Puisque les coûts d'accès, justement, aux caméras, aux logiciels, etc., ont baissé et que, donc, il y a une possibilité, justement, de tirer des bénéfices et des revenus de cette tendance expressiviste que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que l'écosystème Britney Spears 2.0 est tout à fait exemplaire à ce sujet, notamment à travers tous les remixes. Et donc sur sa chaîne YouTube, il y a pas mal de remixes de fans dont je viens de parler, qu'on a vu ensemble, qui sont aussi mentionnés par la chaîne YouTube. Donc c'est une façon de récupérer justement tout ce travail qui est fait gracieusement par les fans de Britney Spears, de promotion en fait de la marque Britney Spears, en générant des contenus à partir de son goût pour Britney, à partir des clips de Britney, etc. Et c'est ce qu'on appelle donc le marketing conversationnel, c'est-à-dire la façon de capitaliser sur les liens sociaux que designent les sites comme MySpace ou Facebook pour finalement accomplir le travail promotionnel classique qui était autrefois donc payé très cher par les maisons de production et qui sont aujourd'hui délégués en fait aux fans et au public. Et donc le public joue aussi un rôle de promoteur, de critique gracieux pour la marque Britney Spears et sans tirer aucun des bénéfices de par exemple MySpace a connu un record de publicité, il a gagné donc 7 millions d'euros en revenus publicitaires. Comment fonctionne la publicité sur MySpace, c'est ce qu'on appelle l'effet place de marché, puisqu'on réunit un grand nombre de personnes, non pas simplement une seule fois, comme par exemple devant un écran publicitaire, devant une Coupe du Monde, etc., mais finalement on expose tous les jours, à toute heure, des publicités à des individus qui sont liés entre eux par des liens de confiance. Et donc, il y a, si vous voulez, sur la circulation des marques, la circulation des publicités, un effet qu'on appelle le momentum effect, qui est l'effet de la recommandation par les pairs. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le marketing conversationnel. À ce sujet, je vous recommande un ouvrage de Marianne Dujarrier qui s'appelle « Le travail du consommateur », qui, dans tous les secteurs de la consommation, montre à quel point le consommateur est aujourd'hui un coproducteur de ce qu'il consomme. Et donc, pour ce qui nous concerne, on va dire que l'audience qui est rassemblée dans ces sites comme MySpace, Facebook, est une audience qui se coproduit elle-même, qu'on appelle l'audienciation, à travers justement tout ce travail de relinkage, de recommandations, de partage de photos, de embed de clips vidéo, etc. Donc, et les bénéficiaires de cette audience rassemblée, évidemment, ce sont les sites comme MySpace et les annonceurs, et non pas justement tous ces publics qui se sont fait coproducteurs de leur propre audience sur ces sites. Voilà. Donc, c'est une logique assez asymétrique, hein, malgré tout, et c'est d'autant plus scandaleux quand on observe ce genre de pratique, par exemple, comme celle-ci, et donc ça, je vais finir par... Donc ici, c'est une mère de famille qui a filmé les premiers pas de son garçon, et il se trouve qu'en bande-son, il y avait, on reconnaît énormément, un tube de Prince. Et Universal donc a demandé le retrait de la vidéo, puisque Stéphanie Lenz l'avait donc mise sur YouTube pour que d'autres membres de la famille en profitent. Et donc Universal réclame à ce jour, c'est un procès en cours, 150 000 dollars pour usage donc d'un contenu copyrighté qui est ce tube de Prince. Et sur YouTube sévit donc une guerre du copyright, hein, d'accord. Et YouTube utilise un peu la méthode essai-erreur, c'est-à-dire elle performe justement le problème, à mon avis. C'est-à-dire elle va de temps en temps retirer des vidéos, elle va de temps en temps couper le son, ou alors, donc ici par exemple la vidéo a été retirée, donc ici c'est une jeune fille qui avait rejoué au piano une chanson classique américaine, c'est Wonderland, l'équivalent de Petit Papa Noël, une chanson des années 30. Qui est signée par chez Warner. Et donc, elle a fait une vidéo où elle explique qu'elle est furieuse de ce retrait. Elle expose son cas, son problème.
That good old Christmas song that everyone loves. I love it. You guys loved it. Because if I click on it...
Voilà, donc, bon, je vais moi-même la couper. Je m'en excuse par avance auprès d'elle. Donc il y a tout un sur cette autour de cette jeune fille, il y a tout un fil de commentaires vidéo qui s'est développé. Bon, avec par exemple Warner Bros qui a été la première en fait majeure à signer avec YouTube et donc qui est la plus agressive. Voilà, donc un petit montage sympathique. Et donc, pour terminer, donc on a un premier cas de fair use, de reconnaissance de l'usage loyal. Donc ça, c'est dans le copyright, la loi américaine de droit de copyright, Copyright Act de 76. Donc il y a la reconnaissance d'un usage loyal, donc qui ne porte pas atteinte, évidemment, aux intérêts de l'auteur et à sa diffusion commerciale, etc. Et donc c'est Perez Hilton, en fait, le blogueur par qui tout a commencé, avec Chris Crocker, hein, qui a gagné, en fait, le droit de voir sa vidéo republiée parce qu'elle avait été retirée sur plainte de Miss California. C'est au moment du débat sur la proposition 8 sur le mariage gay et lesbien en Californie. Voilà. Et donc, il vient, en fait, de gagner son procès et de reconnaître que l'extrait de la Miss America qui était contre le mariage gay soit reconnu comme une courte citation. Et donc, il y a un usage loyal de ces extraits de journaux. Et donc, c'est un premier pas de YouTube vers le fair use. Et voilà. Et donc, je vais... Il y a une guerre du copyright sur YouTube avec voilà cette stratégie de YouTube un peu erratique ou un peu qui performe un peu aussi à mon avis donc le problème. Et donc voilà, donc en France c'est un chantier juridique parce que il y a pas justement cette notion de fair use. Vous avez un rapport de l'OCDE qui n'est pas du tout connu pour son anarchisme culturel qui propose de plaider le fair use pour les user generated content. Donc ça c'est à suivre. Donc c'est pour vous montrer que il y a une criminalisation hein de ces pratiques expressives sur YouTube par exemple, sachant que les bénéfices malgré tout vont quand même à Google. Et donc vous voyez que cette On a visité de l'intérieur justement ce qu'on appelle les industries créatives, cette rencontre entre les anciennes industries culturelles, ces nouvelles sociétés du web, les nouveaux services d'expression qu'elles proposent d'embedder des clips, de pouvoir réaliser des blogs, etc. Donc tous ces secteurs qui se rencontrent, qui donc font ce qu'on appelle un mouvement de convergence. Et on voit bien à quel point les publics jouent un rôle nouveau, évidemment, dans ce mouvement de convergence culturelle, et combien, donc, cette convergence se noue dans le conflit. Alors, je laisserai la parole à Jenkins, qui a bien montré, justement, qu'on arrive à un nouvel âge de la culture, qui n'est plus celui des industries culturelles, où le public est simplement consommateur, etc. On arrive à un nouvel âge où le public joue un rôle décisif. Et donc, il nous explique que le public à qui on a donné le pouvoir grâce à ces nouvelles technologies occupe désormais un espace à l'intersection entre anciens et nouveaux médias et qu'il exige de participer à cette culture. Et les créateurs qui ne parviendront pas à aller au rythme de cette nouvelle participatory culture verront leur public et leurs bénéfices décliner. Les luttes et les compromis qui en résulteront donc définiront la culture publique de demain. Donc ça, c'est vraiment le chantier culturel du moment. Et on voit bien en France à quel point nous sommes engagés justement sur une voie extrêmement conflictuelle avec la DOPI qui va être revotée encore en juillet. Il va y avoir une nouvelle mouture de la DOPI. Et donc on terminera en rappelant cette évidence pour tout le monde que la culture n'est pas un crime sur Internet et ailleurs d'ailleurs. Voilà, merci.